François Helbron, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po et ce soir, nous allons parler avec vous des élections régionales. Alors, François Helbron, quel enseignement peut-on tirer du premier tour qui a eu lieu dimanche dernier, premier tour de ces élections qui étaient à la fois d'ailleurs régionales et départementales, hein ?
Tout d'abord, on a pu remarquer l'importance, le record même, on peut dire, de l'abstention avec 2 Français sur 3, 30 millions de Français qui ne se sont pas rendus aux urnes. Alors j'en vois 4 raisons à ce phénomène massif de désintérêt pour ces scrutins, comme vous l'avez rappelé, régional et départemental. Tout d'abord, c'est un désintérêt pour un scrutin dont les élus sont loin des gens. Et déjà en 2015, donc au dernier régional et départemental, il y avait 50% d'abstention. Là, on est passé à 67%, mais on était déjà à 50%. Donc ce n'est pas un scrutin qui mobilise. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la complexité du millefeuille territorial. Avant, on avait des cantonales, après c'est devenu des conseillers territoriaux, maintenant c'est des départementales, ça change de nom tout chaque fois, le découpage change aussi. Sur les régionales, on a changé, on le sait, on avait 21 régions en France, on est passé à 13 régions, les gens ne se reconnaissent plus forcément dans certaines régions. C'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est aussi, je pense, la faible envie d'aller voter après une année de pandémie et le très mauvais souvenir qu'avait laissé le premier tour des municipales au tout début du confinement en mars 2020, où ce premier tour avait été maintenu à tort et où les Français, d'ailleurs, s'étaient contaminés. Et donc, je pense que c'est la troisième raison. La quatrième raison et phénomène inquiétant, c'est que 84% des 18-24 ans ne sont pas allés voter et 81% des 25-34 ans ne sont pas allés voter. Et quand on leur demande pourquoi, c'est ça qui est intéressant, 35% d'entre eux ont estimé que ces élections ne changeraient rien à leur situation personnelle, donc ne voient pas l'intérêt, bien que pourtant, par exemple, le conseil régional a une vie très importante dans les transports, dans les lycées, ce qui est quand même important pour l'éducation. 33% ont affirmé que ça ne les intéressait pas d'aller voter, ce qui est un peu inquiétant pour la démocratie. 32% on dirait qu'ils voteraient simplement aux élections nationales, donc ils vont se déplacer pour les présidentielles. Et enfin, 30% des jeunes ont assuré ne pas connaître la liste des candidats. Donc là aussi, mauvaise information, et on peut penser aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on ne parle pas des candidats, des programmes. Et donc, toutes ces raisons ont fait que 2 Français sur 3 ne sont pas allés voter.
Alors, quels enseignements nationaux peut-on tirer des résultats des différents partis politiques au régional ?
Alors, il est toujours assez compliqué d'extrapoler, surtout avec une telle abstention. Quand 2 Français sur 3 ne votent pas, on peut dire que le tiers qui a voté, ce n'est pas forcément représentatif. Évidemment, ceux qui se sont pris à une claque, une vraie claque, comme le Rassemblement national et surtout la France insoumise, ont été les premiers à utiliser ce type d'argument. Par contre, quand même, c'est pas un sondage, parce qu'il y a quand même 17 millions de Français qui sont allés voter, donc c'est quand même intéressant, et on peut en tirer plusieurs réflexions. Alors tout d'abord, quels ont été les scores nationaux des grands partis ? Tout d'abord, les Républicains sont les grands vainqueurs. Le parti Les Républicains, donc la formation de droite, a obtenu 28,4% des voix. Ce qui est beaucoup, c'est beaucoup plus que les 20% qu'avait eu Fillon au présidentiel il y a 4 ans. Le Rassemblement national est un des grands perdants, et ça c'est une des bonnes nouvelles, vraiment une des bonnes nouvelles, c'est que le Rassemblement national a eu 19,3%. Au dernier régional, il a eu 27%, il a perdu 8 points. Et même au présidentiel, Marine Le Pen était à 21% par rapport au score de Marine Le Pen, ils ont perdu 2 points. Les socialistes, ça c'est aussi une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle que des partis de gouvernement responsables aient des scores importants, ont fait un bon score avec 15,8%, très très loin de l'échec total de la candidature ridicule de Benoît Hamon en 2017, qui avait fait à peine 6%. Les écologistes ont toujours des bons scores, à 13,2%, ils sont plutôt en hausse. La formation du président de la République, Emmanuel Macron, La République En Marche, lui fait un mauvais score, avec 10,6% pour un parti présidentiel majoritaire à l'Assemblée nationale, 10,6%, c'est pas beaucoup. Et surtout, la très très bonne nouvelle pour toutes vos auditrices et tous vos auditeurs, pour vous et pour moi, c'est que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, est à 5,2%. Rappelez-vous, on l'a oublié, il était quand même à 19,6% en présidentiel. Donc, quelle claque de passer de 19,6% à 5,2%. Alors, c'est vrai qu'il avait été aidé par la candidature nulle de Benoît Hamon. Donc, pas mal de socialistes avaient voté Mélenchon. Là, ils sont revenus au bercail, ils ont voté socialiste et ils ont voté pour des candidats socialistes sérieux dans beaucoup de régions.
Alors là, vous faites un parallèle entre ces élections régionales et départementales et les anciennes présidentielles. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle-là pour les prochaines présidentielles, celles de l'année prochaine ?
Alors c'est ça qui est compliqué, c'est que d'une part, il y a un duel qui nous est annoncé à non plus pouvoir depuis 1 an, 2 ans, c'est le duel Macron-Le Pen, mais que les Français ne veulent pas. il y a eu un sondage il y a un an, 80% des Français ne veulent pas du duel Macron-Le Pen. Généralement, les Français sont assez intelligents et assez débrouillards. Ils ne voulaient pas du duel Sarkozy-Hollande en 2017. On leur demandait, en 2016, un an avant les présidentielles, on leur demandait alors le duel Sarkozy-Hollande, qui était le duel annoncé, la revanche de Sarkozy, on allait se représenter, les Français n'en voulaient pas. Bah, ils ne l'ont pas eu. Hein. Sarkozy a été éliminé aux primaires et Hollande n'a même pas été capable de se présenter à cause de très très mauvais sondages. Là, les Français ne veulent pas du duel Macron-Le Pen et viennent de lancer un signal. Le premier signal qu'ils lancent, c'est que la droite, avec les Républicains, sort renforcée des régionales. Il faut se rappeler quand même que Fillon avait été éliminé du deuxième tour à peu de voix. Il était 400 000 voix derrière Marine Le Pen. Pas énorme, c'est-à-dire seulement 1,3%. Donc c'est la première chose. Donc il peut y avoir un cas où on est le candidat Les Républicains en tête, Marine Le Pen en second et Emmanuel Macron éliminé du second tour. C'est tout à fait un cas probable aujourd'hui. Tout dépendra évidemment de la qualité du candidat que les Républicains mettront devant les électeurs. Deuxième enseignement, les socialistes, ils ne sont pas morts. Alors, il y avait eu le hors-sujet Benoît Hamon. Bah, c'est sûr que s'il y avait eu Manuel Valls ou Arnaud Montebourg, ou même François Hollande,
ils
auraient fait un meilleur score que le 6,4% de Benoît Hamon. Donc, si aux prochaines présidentielles, ils mettent un candidat qui a un programme, qui a une plateforme, qui a une personnalité, qui est quelqu'un de valeur, ils peuvent se retrouver au 15,8%, peut-être moins, peut-être plus, mais et ça changera les choses. L'autre chose, c'est que la France insoumise, qui avait fait un score extraordinaire, incroyable, inquiétant même, puisque Mélenchon, à juste titre, a dit « j'ai failli être au second tour ». C'est vrai qu'à 600 000 voix près, il était au second tour. Ben là, il est à 5,2%, et là, les excès, la violence verbale, la violence politique de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de ses principaux lieutenants, qu'on entend souvent, et notamment Daniel Obono ou Clémentine Autain, fait peur. Fait peur à juste titre, et les gens de gauche... ne se reconnaissent plus forcément dans ce que représente Mélenchon. Donc, ça, c'est l'enseignement pour les présidentielles. L'autre chose qui est un enseignement intéressant, c'est que les candidats qui sont fermes sur leurs valeurs républicaines et qui ont des vrais discours politiques chez les Républicains contre l'extrême droite, les Laurent Wauquiez, les Xavier Bertrand, les Valérie Pécresse, les Renaud Muselier et les Jean Rottner dans le Grand Est, font reculer le Front National. Donc, un discours républicain ferme de la droite face au Front National, fonctionne, il recule. Deuxièmement, les socialistes qui ont aussi ce discours républicain courageux.
Et cette fois, par l'extrême gauche.
Contre la France insoumise et l'extrême gauche, la font reculer. Le succès de Carole Delga en Occitanie et d'Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine, c'est exactement ça. C'est nous sommes social-démocrates et on ne pactise pas avec la France insoumise. Et donc, les Français, quand ils ont des hommes et des femmes courageux qui tiennent un discours anti-Rassemblement National à droite, et anti-France insoumise à gauche, ça fonctionne.
Alors, François Heilbronn, vous évoquiez Valérie Pécresse pour l'Île-de-France. Alors, c'est une ancienne, les Républicains. Hein, elle est indépendante aujourd'hui. Elle est en tête en Île-de-France avec 39%, près de 40% hein, au premier tour. Il y a une alliance des gauches en Île-de-France. Que peut-on en penser?
Alors, c'est vraiment une opinion personnelle. Je pense que c'est une grave, grave erreur politique et morale. Que le PS, le Parti Socialiste en Ile-de-France, accepte de sacrifier son âme en fusionnant avec les Verts de Julien Bayou et les Insoumis de Clémentine Autain, c'est à la fois un manque de courage et de vision. Alors évidemment, ils vont avoir des conseillers régionaux. En faisant ça, c'est on appelle la course à la soupe, la course aux places, ça, ils auront des conseillers régionaux. Ils peuvent même peut-être espérer, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que je pense que c'est une grave erreur politique. Gagner la région, mais je pense qu'ils n'y arriveront pas. Mais c'est surtout un manque de courage et de vision. Et quelle différence, justement, avec la socialiste Carole Delga, en Occitanie, qui, fort de sa ligne ferme contre la France insoumise, a déclaré « Je l'ai dit avant le premier tour, mon projet n'est pas compatible avec les propos de Jean-Luc Mélenchon. » Donc, pas d'alliance, pas d'accord, pas de discussion avec la France insoumise. Là où, tout de suite après le premier tour, en Ile-de-France, Audrey Pulvar va signer avec Julien Bayou et Clémentine Autain. Et je voudrais rappeler que cette alliance contre nature du PS en Ile-de-France, je voudrais rappeler certaines choses sur Julien Bayou. Julien Bayou, nouvelle tête de liste, maintenant de la gauche, parce que les écologistes étaient en tête, avait déclaré que l'injustice faite à Sarah Halimi, il avait déclaré ceci. « Je comprends l'émoi de la communauté juive, mais on doit conserver ce principe, on ne juge pas les fous, la justice n'est pas la vengeance. » Trois erreurs monstrueuses. Ce n'est pas l'émoi de la communauté juive le sujet. C'est le moi de la communauté nationale face à une injustice. Pourquoi nous ramener à notre ghetto? C'est quoi ça, ces propos de non-républicains ? Deuxièmement, on ne juge pas les fous, la justice n'est pas la vengeance. C'est vrai qu'on ne juge pas les fous, mais là, en l'occurrence, il y avait un vrai débat, et on le sait, c'est pas forcément fou. Et puis, ce n'est pas la vengeance, la justice. On demande juste justice, on ne demande pas vengeance. Donc, tout de suite, des images, des clichés. Donc, ça, c'est Julien Bayou. Et puis, Clémentine Autain. Alors là, pas besoin de le rappeler à vos auditrices et vos auditeurs. Elle participe à la marche contre l'islamophobie. Elle va aux manifestations pour le Hamas à Gaza. Elle déclare à la télé, je revisionnais ce matin des images intéressantes, Israël, je la cite, Israël a installé un système d'apartheid. Et à propos de la position de la France qui s'est rapprochée d'Israël par rapport à l'époque de Jacques Chirac, elle tresse un grand portrait, un panagérique de Jacques Chirac. Elle déclare, j'ai honte pour mon pays. Parce que la France, au lieu d'être unilatéralement pro-arabe comme elle était justement sous Chirac, un peu sous Mitterrand, aujourd'hui elle est un peu plus équilibrée, pas assez à notre goût, mais un peu plus équilibrée, elle dit, j'ai honte pour mon pays. Donc le PS en Île-de-France, en s'alliant avec la France insoumise, aura, je l'espère, la défaite et le déshonneur.
François Heilbronn, qu'on retrouve régulièrement sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.